alone.
Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambille.
Adiciats et bienvenue dans votre émission Page à Page, où nous nous retrouvons comme chaque jeudi de 9h30 à 10h sur les ondes de Radio Occitanie. Alors aujourd'hui, je n'ai pas d'invité, il y aura une lecture d'une nouvelle, du recueil de nouvelles de Julien Campredon, qui était ici à Page le 15 mars dernier pour nous présenter donc son recueil intitulé « Brûlons tous ces punks pour l'amour des elfes », édité aux éditions Monsieur Tout le Monde. Et puis donc cette lecture sera faite par Mathieu Zabé, qui a prêté donc sa voix pour cette lecture donc de cette nouvelle qui a le même titre que le recueil. La nouvelle donc s'intitule « Brûlons tous ces punks pour l'amour des elfes ». On en reparlera après les petites infos, comme à l'accoutumée. Alors tout d'abord, ce soir, jeudi 24 mai à 18h à la librairie Priva, qui est toujours 14 rue des Arts à Toulouse, la rencontre que je vous avais déjà annoncée avec Didier Van Kovelaert pour son dernier roman « Le père adopté ». Publié aux éditions Albin Michel. Alors on connaît bien sûr cet écrivain qui a à son actif pas mal de livres déjà. Et donc ce dernier roman est un roman pudique et émouvant de l'amour pour un père. Alors on se rappelle que Didier Van Kovelaert a écrit entre autres, je ne vais pas tous vous les citer, ça serait un peu long, L'évangile de Jimmy, Un aller simple ou encore L'éducation d'une fée. Donc c'est ce soir, jeudi 24 mai à 18h à la librairie Priva. Et je vous rappelle que l'entrée est libre et gratuite. Ensuite, dans l'ordre chronologique du temps, nous avons vendredi 25 mai, c'est-à-dire demain à 20h30, à la Maison des Associations de Naïoux, une veillée occitane avec des contes occitans par Maurice Andrieux. Donc voilà, si vous avez envie d'écouter des contes par cet auteur fort connu en langue occitane, vous vous rendrez donc à la Maison des Associations de Naïoux demain soir pour 20h30. Et là aussi, l'entrée est libre et gratuite. Et puis toujours dans l'ordre chronologique, à Tournefeuille cette fois-ci, il y a un festival qui s'intitule le Festival Histoire en toutes lettres et qui a déjà débuté le 21 mai et qui a lieu jusqu'au 28 mai inclus, donc jusqu'à lundi. Dans divers lieux de Tournefeuille, dont la médiathèque. Et c'est un festival avec des rencontres, des spectacles, des lectures, du cinéma, des expositions. Donc si vous habitez non loin de Tournefeuille ou à Tournefeuille, n'hésitez pas à aller faire un tour ce week-end. Si en plus il fait beau temps, ça sera très agréable. L'entrée est libre et gratuite aussi. Et puis vous pouvez amener vos enfants. Il y a pas mal de choses d'organiser pour eux. Je vous donne un numéro de téléphone pour tout renseignement. C'est le 05 61 86 47 13, 05 61 86 47 13, et l'adresse du site pour voir un petit peu le programme, parce que là j'ai pas trop le temps de vous le détailler, mais il est très riche, donc n'hésitez pas à aller consulter le site de ce festival en toutes lettres, histoire en toutes lettres. Donc c'est www.confluence.org www.confluence avec un S au bout .org. Voilà, et ça se termine lundi 28 mai à Tournefeuille. Ensuite, samedi 26 mai, donc ce samedi, à partir de 18h, et ça se situe à l'Hostal d'Occitania, qui se situe elle aussi 11 rue Malcousina à Toulouse. Alors il y a un vernissage d'une exposition de peinture, mais qui est suivi surtout, c'est pour ça que je vous l'annonce, à 19h30 d'une lecture de Un l'autre, qui est un recueil de poèmes de Michel Éclard Elial, et des peintures de Marianne Giglio. Donc si cela vous intéresse, je vais vous donner le numéro de téléphone pour tout renseignement. Non. Et c'est le 05 61 22 13 31, 05 61 22 13 31. Et donc c'est ce samedi 26 mai à 18h, donc à partir de 18h, à l'Hostal d'Occitania.
Page à page, Claire Ambille.
Poupoupidou.
Le temps nous rattrape, me dit Greg, mon cher technicien. Donc, nous allons passer donc à l'écoute de cette nouvelle qui s'intitule « Brûlons tous ces punks pour l'amour des elfes » de notre ami Julien Campredon. Et on écoute Mathieu Zabé qui donc lit cette nouvelle.
« Brûlons tous ces punks pour l'amour des elfes ». Aujourd'hui, le plus curieux, c'est que même ma promotion, tout m'indiffère. Je n'aime pas l'hiver. Du coup, je préfère prendre mes vacances en été et donc, désireux de fouler de belles moquettes, j'ai suivi à partir de décembre dernier un stage dans un service de direction de la culture. Souvent, j'essaye d'expliquer, on ne comprend pas, que pour moi, les gens qui vivent dans ces services sont ce que j'appelle des elfes. Race supérieure ou élite sirupeuse qui boit du champagne et de la musique de chambre. Faire ça, elfe, ça me plaisait. Alors que notaire, par exemple, non, trop compliqué. Il aurait fallu calculer des dévolutions légales. Mais en même temps, punk non plus. On vomit trop. Je rêvais d'un entre-deux. Être artiste ou quelque chose d'aérien. Directeur culturel, par exemple. Et c'est ainsi qu'après avoir commencé mon stage dans l'événementiel, j'ai été amené à découvrir plusieurs postes, des plus ou moins qualifiés. En janvier, je fus affecté à la surveillance nocturne du musée des Carmélites. Institution qui propose, en plus de l'exposition de son fonds permanent, les mardis soirs, concert de musique renaissance, le jeudi à 19h, concert d'orgue. J'avais déjà assisté à un concert là-bas, l'an passé peut-être, du haut d'un superbe perron de pierre blanche, un employé du genre italien jovial avait maintenu ouverte la lourde porte de chêne, tandis que les visiteurs, tous notables, délicieux, issus du milieu culturel, avaient passé le sas en verre et s'en étaient allés flotter vers le grand hall. Là, tout ce beau monde avait resplendi des mille feux de leurs diamants et autres soieries, au point de prendre des allures de train féerique. Dans mon souvenir, ils ne marchaient plus mais glissaient, ne laissant de leur sillage que la réminiscence des effluves les plus coûteux, et cette nuit-là, petit elfe, j'avais été entraîné pareil à une plume par le courant aérien que ventilaient ces créatures exquises. C'est donc sur ce simple souvenir que j'acceptais mon affectation, et un soir, je me présentais sifflotant à 20h12 sur le perron du musée.
Le mot de passe.
Détendez-vous les gars, je suis le nouveau veilleur de nuit. La porte s'ouvrit silencieusement sur ses gonds impeccablement huilés. Un homme sec, en tenue militaire un peu désuète, il portait un short anglais, me faisait face, les poings sur les hanches, tétant du coin des lèvres un cigare cubain. Alors que je m'avançais pour lui tendre la main, j'entendis le crissement d'un chien de pistolet que l'on arme tandis qu'un tube d'acier froid se collait à l'entrée de mon conduit auditif externe.
Écoute-moi, t'es peut-être un bourgeois qui se croit en visite, con. Mais ici, c'est un musée sous alarme. On ne rentre et on ne sort pas sans le mot de passe. S'il faut, con, t'es un punk déguisé en bourgeois.
Les larmes aux yeux, je lui expliquais avec ma sincérité la plus candide que la DRH ne m'avait pas fait part du code.
T'as de la chance que la direction nous ait prévenu de ta venue, con. Le code est Clara Morgan.
Clara Morgan?
Eh ben quoi, saligo? Tu t'es jamais astiqué la kick, con? T'as jamais vu de film X?
Ah oui, Clara Morgan, oui, bien sûr. Clara Morgan. Je bredouillais les yeux dégoulinants. Le tube s'est décollé de mon oreille. Le chien a été désamorcé et un grand type dégingandé d'origine italienne, la vingtaine maximum, m'a tendu sa main désarmée. Ben oui mon gars, Clara Morgan, on lui foutrait bien tous un coup de queue, pas vrai? Lui c'était Benjamin. Le quadragénaire, un ancien sergent à moustache, on l'appelait sergent ou Serge, ça dépendait.
Il y en a un autre con, c'est le vieux. Il est très catholique mais tu le verras peu parce qu'il snipe un général du grenier ou un buffet sur le toit. Bon, t'as un gilet pare-balles qui t'attend sur le guichet con? Et puis j'ai posé du matériel aussi, tu prends ce que tu veux. Mais ne te charge pas trop, on t'a affecté à la mitrailleuse lourde en contrebas du hall, à la meurtrière.
Snipe sur le toit? Mitrailleuse lourde? Je ne comprenais pas cette histoire de sniper. Sergent me disait qu'il fallait avoir des couilles au cul. Benjamin ajoutait qu'il mettrait bien les siennes à celui d'une actrice porno, et à ce moment-là, alors que moi, je voulais simplement humer une nouvelle fois le parfum et la musique des elfes, une détonation nous projeta à terre.
Putain Benji, tu arroses tout ça à la grenade à la porte. Toi le bourgeois, tu me saxes te merde à la sulfateuse. Moi con, j'appelle le vieux Toki et en fonction je fais une sortie. Bourge, quoi qu'il arrive con, tu ne me les laisses pas mettre de la lessive dans la fontaine devant le musée. Après, ces chiens à enlever. Déjà qu'ils nous ont arraché les fleurs du parterre l'autre jour. Et ces flics qui ne font rien, con.
Tandis que je me souvenais de la féerie du concert, les punks nous attaquaient. En conséquence de quoi, ma sulfateuse les découpait en rondelles. Benji, tu y crois, toi, aux météorites ? Et il m'a collé un joint entre les lèvres avant de gagner son poste, tandis que nous cassions du punk au cri de putain de Viette. Seulement, ces salopards nous envoyaient des cocktails Molotov, si bien que j'ai vu Benji se replier de la porte, le bras brûlé au troisième degré. Les yeux rougeoyants de cannabis, le cerveau vaporeux et la mitrailleuse chointant la mort, je lui ai dit « C'est pas grave, tu vas pouvoir prendre des vacances ?»« Écoute, mon gars, t'es gentil, tes parents ils peuvent sans doute payer, mais moi, si je ne suis pas là demain, je vais perdre ma prime annuelle. Et oui, ça se passe comme ça. » Surtout qu'ils m'ont expliqué qu'ils n'étaient pas couverts en cas de sortie, car sortir du musée pouvait être considéré comme un abandon de poste.
Tu vois, con, avec la direction, c'est toujours pareil. Pas vu, pas pris, con. Par contre, dès qu'il y a une merde, c'est pour ta pomme.
Après quoi, on est sorti verser de l'essence sur les cadavres déchiquetés des punks, qu'on a ensuite enflammés. On a soigné Benji à la prune d'Alsace, et puis on s'est bourré la gueule. Mes collègues m'ont expliqué avec fierté que, jusqu'à présent, aucun assaillant n'était parvenu à voler quoi que ce soit sur le perron. Et pourtant, Dieu sait qu'ils avaient essayé d'arracher des affiches géantes ou même de piquer les buis. Eh bien mon gars, jamais. Le lendemain, le grand brûlé est revenu avec une attelle métallique qui lui soutenait son bras enrubanné de gaz suintant la graisse réparatrice. Serge a alors décrété la soirée soir de fête. On a ouvert un cassoulet. Le vieux nous a rejoints. Et tandis qu'il gravait sur le bois de sa crosse autant de croix qu'il avait abattu de punk la veille, vraisemblablement ravi d'avoir un nouveau public, il s'est mis à me déballer ses théories longuement étayées du haut de son clocher.
« Tu vois les punks, c'est que de la racaille. Ils ne sont même pas croyants. Et aussi, en France, tu sais pourquoi il y a un déficit ? Pendant la première guerre du Golfe, on a tiré 2 missiles, que ça nous a coûté 40 millions de francs. 44 millions de francs. Les Américains n'ont rien payé. Et puis les politiques, ils sont là à te pomper qu'ils augmentent de 70%. Il te resterait 100 balles qui se débrouilleraient pour se le partager. Et voilà, on est en déficit. »
Il a été interrompu par la sonnette de la porte.
« Oh merde, con, j'ai oublié qu'il y a des artistes qui doivent répéter à l'orgue. J'y vais !»
Les artistes. Ils étaient encore plus blonds que des cadres culturels. Ils étaient grands. Ils étaient ariens. Et face à eux, pour le coup, nous n'étions rien de la poussière, du pas beau qui pue la mort, la sueur et le cassoulet. Ils étaient dans des peignoirs en satin, et je crois qu'ils n'avaient pas de pieds, car de toucher ce monde de leurs orteils, ça les aurait salis. J'avais envie de les bénir, et d'essuyer leurs souillures de mes cheveux afin qu'ils continuent à incarner le beau éternel. Je lui ai dit à Serge, et comme il contestait leur salaire à ses yeux excessifs, je lui ai dit « Non, mon ami, non, tu ne tiens pas compte de leur bagage. »
« Ah non, mais con, moi ça m'énerve. C'est quoi avoir un bagage, con ? Moi je conduisais un bus à 2 étages, tu ne crois pas qu'il faut en avoir un bon bagage pour conduire sur la neige ? Et la responsabilité, con ? T'as fait quoi de la responsabilité ? Tout ça pour 600 000 balles par mois ? Vous ne pensez qu'à vous caser le cul devant un orgue ou un ordinateur et vous voulez toucher des millions, con ? Vous n'avez qu'à aller décharger des caisses ! » !»«
Mais enfin, Serge, ce sont des elfes !» J'avais cru que la camaraderie me permettrait d'intégrer ce cercle d'hommes rudes. Mais assurément, s'ils acceptaient de brûler des punks, contrairement à moi, ce n'était pas par amour du beau. Nous avons fini de manger notre cassoulet le nez dedans, sans parler. Le lendemain, un soir venté de janvier, je m'apprêtais à arriver en retard lorsque je vis sur le perron une silhouette qui me précédait. Le blazer municipal était impeccable. Seul trahissait une lourde paire de Rangers. Apanage des punks, il sonna. Le mot de passe. Silence. Serge a entrouvert la fenêtre mitoyenne et a déchargé son Browning sur l'intrus. À mon tour. Le mot de passe. Doucement. Clara M. Plus fort. Putain, Ben, t'es con, tout le monde va m'entendre. Ok. Clara Morgan. Putain, tu fais chier, Benji. Bon, ça va, t'as gagné. J'ai pensé... pour l'amour des elfes, et j'ai hurlé « Clara Morgan !» La porte s'est ouverte. Serge m'a demandé si je n'avais pas eu de mal pour me garer, et puis on a parlé bagnole. Benji était hilar et agité dans tous les sens son attelle qui commençait à sentir le pu, secouant son corps n'importe comment. Serge s'est assombri soudain et m'a demandé si je n'avais rien remarqué. « Quoi ? Où ? Quand ? Comment ?
Le vent d'automne.
Oui, eh bien.
Eh bien, c'est le vent des fous, mon pauvre.
Ce soir, tu peux être sûr qu'on va subir une grosse attaque, con. Me confia-t-il soucieux. J'avais apporté une galette pour tirer les rois, mais non, du coup le cœur n'y était plus. Ça a commencé avec le vieux qui, flairant le danger, ne nous avait pas rejoint dans la salle de repos. On avait même dû lui monter sa part de galette et son crucifix qu'il laissait d'habitude dans son casier. Tandis que nous autres, en bas, nous faisions semblant de fêter Serge, élu roi de la soirée, un coup de feu retentit. Le vieux venait d'abattre un de ces salopards qui taguaient sur la porte d'entrée.
« Tu sais combien ça a coûté à la mairie l'an passé d'enlever toutes ces conneries qu'ils peignent sur les murs, con ?»
Dès cette première alerte, nous avons enfilé nos gilets pare-balles et nous nous sommes installés à nos postes de garde respectifs. Au début, les punks venaient seulement par deux ou trois et totalement bourrés. Ils essayaient simplement de vomir ou de pisser sur le perron. Alors on les tuait. Comme ça, pour l'amour des elfes. Car nous savions que nos supérieurs hiérarchiques feraient semblant de ne pas remarquer les traces de sang dans les allées du jardinet, devant le perron. Oui, ils feraient semblant. Mais au fond de leur cœur supérieurement hiérarchique, ils ne nous en aimeraient que davantage. Autant soit-il possible pour un supérieur d'aimer un subalterne. Alors on tuait les punks, enfin au début. Parce que dès le milieu de la nuit, il y en a eu plein qui se cachaient derrière ceux que nous avions déjà alignés. Si bien que vers 3 ou 4 heures du matin, un de leurs commandos a réussi, après avoir subi de lourdes pertes, à se replier en emportant avec eux un superbe buis empoté dans un vase des manufactures royales d'Anduze, un de ceux qui servent à cacher la réserve à poubelles. À la vue de ce larcin, Serge est devenu rouge de colère, le Browning dans la main droite, un fusil mitrailleur en bandoulière de l'autre côté. Il a ouvert la porte du hall, d'un grand coup de pied nous a crié « Couvrez-moi quand j'y vais !» Il fallait le voir sur le perron, irradiant de rougeur, une arme à chaque main, le cigare fumant de colère et sa couronne de la galette sur la tête. Il a fait un vrai carnage et il a même tué une vieille matinale qui par erreur faisait chier son chien sur la pelouse. Il a tiré, fait des saltos, mitraillé et mitraillé, achevé à coups de crosse, donné des coups de pied aux chiens alcooliques des punks. Il a contourné les positions et nous, sur le perron, on l'a couvert. Sauf Benji, qui faisait comme il pouvait avec son attelle pour gérer la sulfateuse de l'intérieur du musée. Lorsque Serge a disparu derrière le premier pâté des maisons qui font front au musée, de l'autre côté de l'avenue, j'ai cru que c'était la dernière fois que je le voyais. De notre côté, nous devions faire face aux chiens affamés des punks morts qui, flairant sur nos chemises des taches graisseuses de cassoulet de la veille, cherchaient par tous les moyens à nous laper ou bien à nous mordre fébrilement. Finalement, on les a eus à la grenade. Chose compliquée, car il a fallu nous éloigner suffisamment d'eux pour ne pas être nous-mêmes blessés par l'explosion. C'est alors que nous avons vu Serge revenir vers nous en courant. Sa couronne toujours vissée sur le crâne, le pot et son arbuste dans les bras.
« Couvrez-moi quand j'arrive !»
Il avait dû aller la rechercher jusque dans leur repère, un dessous de pont ou je ne sais quoi. Et il avait une horde incroyable aux fesses qui le harcelait de canettes de bière, seringues et autres armes punk. Comme nous autres sur le parvis, nous nous étions mis en joue et foudroyions ses assaillants. J'ai pensé qu'il allait s'en sortir, jusqu'à ce qu'un drogué à crête iroquoise lui perfore la cuisse avec la hampe d'un drapeau municipal volé sur la façade d'une administration. Ivre de douleur, le sergent a arraché le pieu de sa cuisse, tandis que le vieux, sortant de derrière son dos calleux un fusil à pompe, allait au devant de ce collègue qui, blessé, continuait en claudiquant sa course héroïque et désespérée, tenant contre lui le pot ainsi que le drapeau municipal qui claquait dans le vent, municipal jusqu'au bout. Un punk tente de le dépasser par la droite, une baramine prête à le défigurer au-dessus de la crête. Serge s'arrête net, lâchant tout son barda sauf son arbuste qu'il serre toujours contre son cœur. L'autre entame son moulinet dans une posture de joueur de baseball. Serge sort simplement de sa poche son Browning, comme on en sortirait un mouchoir, et il abat le punk.
« Surtout ne pas faire tomber le buis, quoi. Ça vient d'Anduze. »
L'hélicoptère de la police dit « Rendez-vous, vous êtes cerné. » L'hélicoptère de la police dit « Rendez-vous, vous êtes cerné. » L'hélicoptère de la police dit « Rendez-vous, vous êtes cerné. » Par habitude, tous les punks se sont couchés sur le macadam, mains sur la crête et jambes écartées. Le vieux, brisé dans son élan, a déprogrammé sa mission de sauvetage et, voûté, m'a rejoint devant le musée, les mains dans les poches et le fusil à nouveau calé entre les omoplates. Seul le sergent, magnifique, restait droit, le buis contre sa poitrine, le drapeau claquant au vent des fous. Je crois qu'il s'attendait à être félicité pour sa bravoure. « Rendez-vous, vous êtes cerné !» Nous autres, sur le perron, nous croyions que tout était fini, que l'on était sauvé et que Serge allait rentrer dans l'ordre des choses et dans le musée peut-être d'ailleurs avec une médaille. Alors une bière, on montrait les lits de camp et nous somnolerions jusqu'à l'arrivée du personnel d'entretien. Les punks, dont certains s'étaient endormis dans leur vomi, ne bougeaient plus. Serge, saignant au travers de son short, a planté le drapeau dans le gazon du petit jardin et la moustache fière a regardé venir à lui les légions municipales en ordre de bataille. Soudain, une voiture break de la police a surgi de nulle part, écrasant certains des ivrognes allongés sur la chaussée. Dérapage frein à main. Le directeur du musée sort emballé dans un riche blazer recouvert d'une étole brodée, et son porte-voix dit « Serge, mon ami, le règlement ne vous autorisait pas à sortir de l'enceinte des Carmélites. Il nous faut un coupable pour tout ce merdier. Vous n'auriez pas dû sortir, mon petit Serge. Car vous allez trinquer. Rendez-vous, vous êtes cerné. » Ce qui donne, en langage elfique, « Serge, mon ami, si vous posez vos armes et que vous vous rendez aux forces de police, vous n'aurez qu'un blâme pour votre abandon de poste. Soyez raisonnable. Rendez-vous et rendez le buis. Faites attention au pot, il date du 18e. » «
Tu vois, con. Avec la direction, c'est toujours pareil, dès qu'il y a une merde, con. »
La police avançait en ordre serré vers notre collègue abandonné de sa hiérarchie et de Dieu. Le vieux, regardant le ciel, a murmuré «
Ne crains en aucune manière ce que tu vas souffrir. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. » Rendre le buis, putain comme ça, jamais.
Serge a jeté son pot en l'air, a dégainé de sa main libérée tandis qu'il tirait déjà de l'autre, brisant net l'avancée du municipo. Puis avant que le buis ne retombe, il a rengainé une de ses armes, a rattrapé la plante au vol et a plongé par terre afin de ramper vers la voiture du directeur, à l'abri du rempart protecteur des punks morts ou endormis. De notre point de vue, nous pouvions, contrairement aux policiers, suivre son cheminement, car la touffe de buis avançait en tremblotant, pareil à un panache végétal au-dessus du magma vaguement humain qui jonchait la rue. Arrivé au niveau de la voiture, et donc protégé par celle-ci, Sergent s'est relevé, a abattu le policier qui servait de chauffeur au directeur. Puis comme ce dernier protestait, une giclée de sang sur son châle l'ayant sali, d'une manchette sèche, Serge lui a brisé la nuque comme il l'aurait fait d'une vieille branche. Ensuite, il a posé le buis du côté passager en le faisant dépasser par la fenêtre, et avant de prendre la place du conducteur, il s'est saisi du porte-voix tombé à terre.
« Je ne veux de mal à personne qu'on m'ait là, c'est trop !»
Il a claqué sa portière, ne sachant plus comment réagir face à cet imprévu, la mort du directeur. Les flics stoppaient net, gardaient leur rang et demandaient des instructions par radio. L'ordre tombe, les policiers se ressaisissent, somme. « On va tirer, rends ce buis et tu pourras t'en tirer, ne fais pas le con, mec !» L'hélicoptère de la police dit « Rends-toi, Serge, tu es cerné !» Le moteur de la Safrane tricolore vrombit. Serge a jeté sa couronne de vie par la fenêtre et lance son véhicule contre le barrage parce que,
derrière, il y a le fleuve et de là, con, l'accès à la rocade.
Les pneus crissent, et les armes aussi, à répétition. Ça canarde dans tous les sens. Le vieux et moi nous sommes touchés, on se recroqueville comme des asticots. Je baigne dans mon sang, ou le sien, je ne sais plus. Mais quoi qu'il arrive, j'espère que mon héros va s'en sortir. Les balles traçantes tracent, mais Serge continue. Quoi qu'il arrive, Serge continue. Les pneus éclatent, mais il maintient la direction. Écrase les méchants en uniforme. Reçoit une balle dans le bras. Il ne fonce pas dans le mur policier pour les visiteurs bourgeois de ce musée qui la nuit devient le sien. Il ne fait pas ça contre les punks qui, il le sait au fond de lui, assument leur liberté. Non, il continue pour lui, pour être municipal jusqu'au bout, pour la médaille. Pour nous aussi peut-être. Pour dire que, elfes ou pas elfes, c'est pas des directeurs à la con qui vont nous faire chier. Je suis Serge, et je vole avec lui vers le pont. Nous, les veilleurs de nuit, ce soir, nous sommes Serge. Vas-y, sergent, nique la police! Finalement, malgré le barrage, malgré les tirs, le sergent a lassé sa voiture sur le pont. Et même si on ne le voit plus, même si nous avons peur de mourir, nous savons que la corrida n'est pas finie et qu'au bout du pont, il devra affronter d'autres matadors. Il y a eu des explosions du côté du fleuve. Acouphènes. Plus rien. Ah si, du sang. Vomir. Serge. Oh non, ça ne va pas du tout. Les caméras de vidéosurveillance installées sur le fronton du musée ont filmé toute la scène jusqu'au saut vers l'inconnu, vers le pont. Chaque vendredi, je retrouve Benjamin dans son appartement qu'il ne quitte plus depuis qu'il touche sa pension d'invalidité, pour son bras qu'on a dû amputer faute de soins. Alors plus en retard que moi parce que retraité, Le vieux nous rejoint avec son jogging dégueulasse. Il apporte des bières. Moi, je prends un antidépresseur. Nous posons religieusement une couronne de l'épiphanie sur la télé et dedans, on enfonce la cassette. Et à nouveau, Serge est là, avec son putain de buis et son putain de drapeau. 100 fois, 1000 fois, il nous refera la même. Encore, il arrache le drapeau sanglant. Il s'engouffre dans cette satanée safrane et il part. Alors nous jouons à imaginer la fin. Ce soir, pour le vieux, il est mort. Benjamin dit que peut-être sa voiture aux pneus crevés a heurté le parapet le long des berges du fleuve et qu'elle est tombée dedans. Alors Serge, il aurait sauté et il serait tombé et des punks l'auraient récupéré parce que les punks aident les ennemis de la police. Et il l'aurait soigné avec de la bière et de la drogue et puis Serge, qui est très fort, il se serait imposé et maintenant ce serait le chef de tous les punks. Et si on le croisait, on ne le reconnaîtrait plus parce qu'il n'aurait plus la moustache mais une crête.
Il ne s'est pas foulé. Il nous sort la même histoire que la semaine dernière. Déjà qu'on sait tous que les punks n'ont pas de chef.
Pour ma part, ce soir, je ne sais pas pourquoi, mais je suis sûr qu'il s'en est sorti. Qu'il a passé la frontière et qu'aujourd'hui, il a ouvert un tripot à Bornéo.
Pour le coup, le vieux aligne sa version sur celle de Benji. Il faudra que je trouve mieux la prochaine fois. En attendant, Sergent est un charismatique leader punk qui sans doute joue des reprises des Sex Pistols et baisse des toxicomanes. On verra vendredi. Je chercherai une solution plus crédible. Et puis, à la prochaine réunion, il faudra bien que je leur dise aux copains. Je ne sais pas pourquoi, il n'y a pas de mal à cela, mais bon, j'ai un peu honte. Allez, un autre cachet. Et puis de toute façon, je leur dirai, promis, que à la fin de mon stage, ce sera moi le nouveau directeur des Carmélites. Le pire, c'est qu'après tout ça, je m'en fous. Je crois que je vais me laisser pousser la moustache.
Brûlons tous ces punks pour l'amour des elfes.
Page à page, Claire Ambille.
Après cette superbe lecture interprétée par Mathieu Zabé, et puis il faut pas oublier Pierre Dubray pour la prise de son. Voilà, vous pouvez retrouver donc le recueil de Julien Campredon dans tous les magasins de livres. Brûlons tous ces punks, pardon, pour l'amour des elfes. Et c'est aux éditions, je me suis trompée tout à l'heure, donc je rectifie, aux éditions Monsieur Toussaint L'Ouverture. Voilà. Et nous, on se retrouve donc la semaine prochaine. Mais je tenais vraiment à féliciter Mathieu Zabé et Pierre Dubray pour ce moment exceptionnel de lecture. Et surtout Julien Campredon aussi pour son texte très humoristique, voire ironique. On retrouve bien là son talent et sa plume. Merci Julien. Et on se retrouve la semaine prochaine avec une lecture d'un petit polar de Magali Duru. Et si Magali, tu m'entends, tout est arrangé. Voilà, adiciats à tous. Poop-poop-pee-doop.